VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 en universel du lundi 16 décembre 2019. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Une nouvelle tuerie dans l'est de la RDC fait au moins 12 morts au lendemain du massacre de 22 civils dans la région de Beni. L'ancien président centrafricain François Bozizé est de retour dans son pays 6 ans après son départ en exil.
Eh bien, depuis hier, je puis vous dire de la manière la plus solennelle que François Bozizé se trouve bel et bien dans la capitale centrafricaine.
Retour également d'Amadou Toumani Touré, l'ancien président malien qui avait quitté le pays après le coup d'État de 2012. En France, démission du haut commissaire aux retraites alors que la grogne sociale s'intensifie. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. République démocratique du Congo, 12 civils ont été tués, 12 autres blessés dans une nouvelle attaque des ADF dans la région de Beni, dans l'est du pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Pascal Sambili, chef de Watalinga, les ADF ont fait irruption à Kamango et ont tué des civils à la machette et à l'arme à feu. À l'arrivée des militaires, les assaillants ont battu en retraite en s'exprimant en Kiganda, une langue parlée en Ouganda, a déclaré Faustin Baswiki, président du comité des jeunes de Kamango. Hier, 22 civils ont été tués à Kamango, près de la frontière ougandaise, selon Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. La veille, 6 civils ont été tués dans une autre attaque à Beni. Depuis le 28 novembre, le chef d'état-major des forces armées, le général d'armée Célestin Bala, s'est installé avec son équipe à Beni. Un autre général, John Numbi, a été envoyé en renfort quelques jours après. Dans son premier discours sur l'état de la nation vendredi, le président Félix Tshisekedi, qui, dès son élection, s'était engagé à pacifier l'Est, a indiqué avoir changé le commandement de l'armée dans cette région.
Près de 300 dissidents d'un groupe armé rwandais Hutu actif dans l'est de la RDC ont été rapatriés au Rwanda. Les 291 rebelles rwandais appartenaient au groupe armé du Conseil national pour la renaissance et la démocratie, une dissidence des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. 11 enfants étaient avec eux. La cérémonie de transfèrement de ces rebelles capturés s'est déroulée au poste frontalier de Ruzizi 1 à Bukavu, en présence de 2 généraux des armées congolaises et rwandaises. L'ancien président centrafricain en exil en Ouganda est de retour à Bangui. François Bozizé, renversé en mars 2013 par la coalition rebelle Seleka, est depuis hier dans la capitale centrafricaine, selon un de ses proches, alors que les autorités du pays étaient hostiles à son retour. Le point à Bangui avec Freeman Sipila.
Un retour sur les pointes de pied qui a surpris tout le monde. Le 11 décembre dernier, la justice centrafricaine avait rejeté une requête des avocats de l'ancien président demandant l'annulation d'une note du gouvernement qui interdit aux compagnies aériennes de l'embarquer à destination de Bangui. Le 13 décembre, son parti politique, le KNK, met en place une structure dénommée Bozizé doit rentrer. Et c'est chose faite, Bertin Béa, secrétaire général du KNK.
J'avais dit que le meilleur cadeau que notre formation politique, le KNK, se préparait à offrir à ses sympathisants, à ses militantes et militants et au-delà, au peuple centrafricain, c'est le retour de François Bozizé. Eh bien, depuis hier, je puis vous dire de la manière la plus solennelle que François Bozizé se trouve bel et bien dans la capitale centrafricaine. Ce ne sont pas des ragots, ce ne sont pas que des simples rumeurs.
Comment il est rentré, où se trouve-t-il exactement? Le secrétaire général du KNK prie les journalistes de ne pas poser ces questions. Il indique que François Bozizé fera une déclaration dans les jours à venir à la presse nationale et internationale. Lors de son dernier congrès en août dernier, le KNK avait investi François Bozizé, son candidat à la présidentielle de 2020 en Centrafrique. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Autre retour au Mali, l'ex-président malien Amadou Toumani Touré, en exil au Sénégal depuis le coup d'État qu'il a renversé en 2012, est rentré à Bamako. Cette fois, c'est un retour définitif. Le point sur place avec Kassim Traoré.
À la différence du 24 décembre 2017, où il avait été triomphalement accueilli dans les rues de Bamako, ce dimanche 15 décembre 2019, ATT est revenu sans grand tapage.
Je pense que c'est une très bonne initiative de rentrer chez soi, puisque on est mieux ailleurs que chez soi. Donc, je suis pour son rentrée définitive en Mali.
L'homme du 26 mars 91, date de la révolution malienne, revient à Bamako après 6 ans d'exil à Dakar. Pour ses partisans, ce retour était nécessaire.
C'est un Malien comme tout le monde. Il fut président de la République, même si dans sa gestion, il y a eu des hauts et des bas. De toutes les façons, il est Malien. Et c'est une nécessité que tous les Maliens se retrouvent dans le pays, qu'on essaie de poser les jalons pour le développement de ce pays. On peut tout lui reprocher, sauf qu'il n'est pas patriote.
ATT a quitté l'aéroport Bamako-Senou pour son domicile à Amdalaye ACI à Bamako, sans faire de déclaration. Selon son entourage, l'ancien président de la République du Mali ne fera plus de politique au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Gambie, des milliers de personnes ont manifesté à Banjul, la capitale, pour réclamer que le président Adama Barrow quitte le pouvoir après 3 ans, comme il s'y était engagé en devenant le candidat unique de l'opposition en 2016, alors que le chef de l'État entend désormais diriger le pays jusqu'à 2021. Encadrés par les forces de l'ordre, les manifestants ont défilé en un grand cortège dans les rues de la capitale de ce pays d'Afrique de l'Ouest au rythme de la musique de Bob Marley, scandant « 3 ans, 3 ans » et faisant le signe « 3 » de la main. En Algérie, le Conseil constitutionnel a publié les résultats définitifs de la présidentielle du 12 décembre, entérinant la victoire au premier tour de l'ancien premier ministre Abdelmajid Tebboune. Le chef de l'État élu prendra ses fonctions dès sa prestation de serment, a précisé le président de l'institution, Kamel Fenich. La Constitution prévoit que le président prête serment dans la semaine suivant son élection. Abdelmajid Tebboune a été élu à plus de 58% des voix, mais avec un taux d'abstention record de 60%.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le haut commissaire aux retraites, soupçonné de conflit d'intérêts, a démissionné. Un coup dur pour le gouvernement face au risque de voir les grèves se prolonger durant la période de Noël. Nathalie Barche.
Au 12e jour de ce conflit qui paralyse les transports, Jean-Paul Delevoye a présenté sa démission au président Emmanuel Macron, qu'il a accepté avec regret. La position du haut-commissaire aux retraites était devenue intenable après des révélations sur des mandats non déclarés en parallèle de ses fonctions gouvernementales, alimentant des soupçons de conflit d'intérêts. Cette démission intervient à la veille d'une journée de mobilisation que les adversaires de la réforme veulent décisive, l'ensemble des syndicats appelant désormais à la grève et à la manifestation, y compris la CFDT. Les transports parisiens et dans certaines grandes villes sont encore très perturbés, tout comme le trafic ferroviaire. Dans la matinée, plus de 620 km de bouchons ont été enregistrés en région parisienne.
Le président iranien Hassan Rouhani se rendra au Japon vendredi. La première visite d'un président iranien dans l'archipel nippon depuis 2000. Elle portera essentiellement sur l'expansion des relations économiques irano-japonaises, a déclaré le porte-parole du gouvernement Ali Rabi lors d'une conférence de presse. Cette visite intervient alors que l'Iran et les États-Unis sont à couteau tiré à propos du programme nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie qatari fait état de progrès dans les discussions visant à mettre fin à la dispute avec l'Arabie saoudite et ses alliés, mais il a prévenu que Doha ne changerait pas ses relations avec Ankara. « Il y a des progrès. Nous avons commencé à communiquer avec les Saoudiens », a déclaré le ministre des Affaires étrangères qatari, cher Mohamed Ben Abderrahman. En juin 2017, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs liens avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir des mouvements islamistes et de se rapprocher de la Turquie et de l'Iran. Au Liban, des consultations parlementaires devant permettre d'avancer vers la formation d'un gouvernement ont de nouveau été repoussées. Elles doivent démarrer jeudi à la demande du premier ministre démissionnaire Saad Hariri. L'annonce intervient après une nouvelle soirée de violence dimanche entre forces de l'ordre et manifestants. Des dizaines de personnes ont été blessées. Le Liban vit depuis 2 mois au rythme d'un mouvement de contestation contre l'ensemble de la classe dirigeante accusée de corruption et d'incompétence. La Chine a qualifié de faute l'expulsion de diplomates chinois par Washington après des informations affirmant qu'ils avaient tenté en septembre de s'introduire dans une base militaire américaine. Au moins l'un d'entre eux est soupçonné par les autorités américaines d'être un agent du renseignement chinois. Il s'agit du dernier incident en date entre les deux premières puissances économiques mondiales, quelques jours après l'annonce d'une trêve dans leur guerre commerciale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et on retrouve Herman Umbo pour la Minute Éco.
La Banque africaine de développement s'est jointe à 11 autres organisations internationales afin d'assister les pays en voie de développement dans la construction de leur résilience aux événements climatiques extrêmes. Le FMI félicite le Tchad qui bénéficiera d'un nouveau financement de 38,8 millions de dollars. D'après l'institution financière, les résultats obtenus par le Tchad dans le cadre de son programme de réforme économique restent globalement satisfaisants. En Côte d'Ivoire, la multinationale suisse Roche spécialisée dans l'industrie du médicament et les autorités s'engagent à investir 86 milliards de francs CFA dans la prise en charge des personnes à revenus faibles atteintes du cancer et d'autres maladies virales. La signature de l'accord a eu lieu entre le ministre ivoirien de la Santé, Eugène Aka Awele, et le président du conseil d'administration du groupe pharmaceutique Roche, Christophe Frange. En Guinée équatoriale, le ministre du Pétrole a prolongé de 6 mois la licence d'exploitation d'ExxonMobil sur 2 blocs considérés comme des périmètres à fort potentiel selon les autorités équato-guinéennes.
À présent, la page de sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On connaît les affiches des 8e de finale de la Ligue des Champions.
Oui, le tirage au sort a été effectué par l'UEFA à Nyon en Suisse. Le grand choc de ces 8e opposera le Real Madrid avec ses 13 titres à Manchester City. Lyon jouera la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Grosse double confrontation en vue également entre l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey et Liverpool de Mané, Salah et Naby Keita. Deux Sénégalais s'affrontent aussi lors de ces 8e de finale. Moussa Wagé du FC Barcelone et Kalidou Koulibaly de Naples. Le PSG fera face au Borussia Dortmund le 18 février 2020 pour le match aller, avant de recevoir son adversaire allemand au Parc des Princes le 11 mars au retour. À suivre également Chelsea, Bayern, Tottenham, RB Leipzig et Atalanta Bergame, Valence.
Tirage au sort effectué également en Europa League.
Arsenal du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et de l'Ivoirien Nicolas Pepe devra gérer un chaud déplacement chez les Grecs de l'Olympiakos en 16e de finale. Manchester United reçoit le FC Bruges. L'Ajax Amsterdam du Marocain Hakim Ziyech affronte la robuste équipe de Retafe du Togolais Djéné Dakounam. Reversé de la Ligue des Champions, l'Inter de Milan d'Antonio Conte joue les Bulgares de Ludogorets. Les Rangers devront défier les Portugais de Braga tandis que le Celtic est tombé sur Copenhague. L'AS Rome a hérité de la Gantoise et Benfica s'est retrouvé face au Shakhtar Donetsk. Les matchs allés auront lieu le 20 février et se retour une semaine plus tard.
La CAF savoure sa victoire contre Lagardère Sport.
Oui, la Confédération africaine de football s'est réjouie de la sentence prononcée par la Chambre de commerce internationale contre Lagardère Sport. Cette dernière structure avait allégué que la CAF a illégalement résilié le contrat qui les lie et demandait en conséquence que la CAF revienne sur sa décision. L'arbitre d'urgence a rejeté toutes les demandes de Lagardère Sport, qui doit en outre supporter les frais de la procédure d'arbitrage et a contribué pour plus de 60 000 euros aux frais de justice de la CAF. À moins d'un nouveau rebondissement, eh bien, la CAF peut annoncer son prochain partenaire pour la commercialisation des droits marketing du football continental.
La FIFA a saisi la justice pour récupérer de l'argent versé à Michel Platini.
L'instance mondiale du football a saisi la justice suisse pour obtenir le remboursement d'1,84 million d'euros versée de façon indue par l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter à Michel Platini. En effet, la commission de gouvernance a recommandé de poursuivre Sepp Blatter et Michel Platini pour obtenir le remboursement de l'argent versé de façon illégale par le premier au second. La FIFA doit le faire avant le 31 décembre. Vincent Solari, l'avocat de M. Platini, a jugé les prétentions de la FIFA totalement infondées, estimant que la démarche relève du harcèlement.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Afrique du Sud, d'abord, la grande entreprise publique d'électricité Eskom tourne au ralenti. L'entreprise cumule une dette de 30 milliards de dollars, soit 15% de la dette de l'État sud-africain. Résultat, des délestages quasi quotidiens dans tout le pays. Le point avec Patricia Huon à Johannesburg.
Depuis environ une semaine, les coupures d'électricité sont devenues une réalité quasi quotidienne en Afrique du Sud. Chacun s'organise comme il peut, en fonction des horaires de délestage annoncés quartier par quartier par Eskom, la compagnie nationale d'électricité.
Donc, quand je rentre et qu'il n'y a pas d'électricité, j'allume les bougies pratiquement tous les jours. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Ben, le frigo, la bouilloire électrique, le four micro-ondes, machine à laver, ça impacte tout ce que vous faites dans la journée, le travail.
Les conséquences sont lourdes pour de nombreux commerces et entreprises. Ceux qui le peuvent s'équipent en prévision de nouvelles coupures, comme dans ce restaurant de Johannesburg.
Les commerces ont déjà des difficultés pour s'en sortir. Et là, vous investissez dans un générateur qui coûte entre 700 et 3500 dollars, de l'argent qui pourrait être investi autrement pour développer les affaires.
D'après les explications de la compagnie Eskom, les faibles performances de ces centrales seraient dues aux récentes pluies qui auraient laissé les réserves de charbon détrempées. Mais le problème est plus profond. Une énorme dette, des infrastructures vieillissantes, Eskom ne parvient plus à répondre à la demande. Avec souvent 4 heures de délestage par jour, parfois plus, la facture pèse lourd sur une économie sud-africaine qui se porte déjà mal. Chris Yeland, expert en énergie.
Ça a un gros impact sur les commerces, les industries, les mines. Les sociétés et les investisseurs n'osent pas agrandir leur business par crainte de ces difficultés d'approvisionnement en électricité.
Eskom fournit 95% de l'électricité en Afrique du Sud et sa situation menace le reste de l'économie. Le gouvernement fait donc un effort colossal pour tenter de stabiliser l'entreprise. En février, le ministre des Finances, Tito Mboweni, annonçait un plan de sauvetage sur 3 ans, suivi d'un second annoncé en catastrophe en juillet.
Ce soutien que nous annonçons aura un coût significatif pour le trésor public et pour les contribuables sud-africains.
Malgré l'intervention du gouvernement, pour l'instant, la compagnie d'électricité fonctionne à perte. Pire, elle symbolise la situation catastrophique de la plupart des entreprises publiques du pays, victimes de mauvaise gestion et de pillage de fonds publics. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Difficile d'avancer des chiffres sur la situation des violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Et pourtant, le mal est réel et touche de nombreuses femmes. La lutte contre ces violences s'intensifie dans le pays. Le point avec Siriki Baro à Boaké.
Parler ou dénoncer les auteurs est un exercice encore très difficile pour les femmes qui subissent des violences. Rokia Ouattara en a connu dans son couple. Aujourd'hui, elle s'est engagée dans la lutte. Et son combat, c'est de convaincre les femmes victimes à dénoncer les auteurs.
Nos sœurs ont peur de faire les témoignages. Parce qu'il y a cette peur qui est là. Il faut qu'on puisse amener ces femmes victimes à poser plainte.
Ami Traoré est écrivain et activiste féminine. Victime d'excision, elle a décidé de faire de sa plume son arme de combat.
J'ai décidé de créer beaucoup de projets autour du livre comme moyen de sensibilisation. Et en cet effet, j'ai publié une œuvre autobiographique, Le couteau brûlant. Ça nous a vraiment permis de sillonner des lycées et collèges. Parce que moi, je me dis que dans toute cette lutte-là, c'est plus une question de femmes, c'est une question de société qui concerne tout le monde.
En première ligne de la lutte contre les violences basées sur le genre, plusieurs ONG. OIS Afrique est l'une d'entre elles. Cette organisation non gouvernementale aide à la prévention et tente de rétablir les femmes victimes dans leurs droits. Norbert Conan, coordonnateur de cette ONG, pense que les premiers résultats de la lutte sont encourageants.
Il y a peut-être 10 années de cela, c'était difficile vraiment à une personne d'aller au niveau, par exemple, de l'hôpital, dire que j'ai été victime de violences sexuelles ou bien au niveau de la police. Mais avec les sensibilisations, la prévention, la mise en place des comités de protection dans les quartiers, de nos jours, ces femmes-là, quand elles ont été victimes de violences sexuelles, vont directement dans les centres de santé se faire consulter.
Aider les femmes à sortir de la précarité, c'est la lutte engagée par Anne-Marie Yao, présidente de l'ONG Femmes Debout pour le Progrès et la Paix en Côte d'Ivoire. Et pour parvenir à cette ambition, elle arrive à fédérer les femmes autour d'elle et prône l'entraide.
On a commencé à faire des petites tontines entre nous. On a commencé avec 500, on était 25 femmes, mais les plus vulnérables. Je leur inculquais comment il ne faut pas confondre les bénéfices et le prix d'achat. Aujourd'hui, toutes ces femmes-là, elles sont installées.
L'État a doté une 20aine de postes de police, de bureaux du genre, afin de faciliter l'accès des victimes aux différentes voies de recours. Siri Kibaro, Boaké, VOA Afrique.
Les démocrates sont à un pas de la mise en accusation du président Donald Trump. Après 14 heures de débat partisan, la commission judiciaire de la Chambre a formalisé les articles disant que le président Trump a abusé du pouvoir et fait obstruction au travail du Congrès. Le vote en plénière est prévu ce mercredi. Le point avec Bagassi Koura.
Cette semaine, Donald Trump sera le troisième président mis en accusation dans l'histoire des États-Unis. Étant lui-même visé, il dénonce le processus.
Utiliser la mise en accusation est un embarras pour ce pays.
Les démocrates qui dominent à la Chambre ont retenu 2 articles de mise en accusation qui seront adoptés par un vote à majorité simple en séance plénière. Un procès au Sénat doit suivre au début de l'année prochaine. Ils accusent le président d'avoir utilisé l'aide américaine à l'Ukraine pour ses propres intérêts politiques. Gerald Nadler est président de la commission judiciaire de la Chambre.
Quel est le risque si nous ne faisons rien? Au cours des 94 derniers jours, depuis le début de l'enquête parlementaire, en réalité, au cours des 3 dernières années, une vérité incontestable est apparue. Si nous ne répondons pas aux abus de pouvoir du président Trump, les abus vont continuer. Nous ne pouvons pas compter sur des élections pour résoudre nos problèmes lorsque le président lui-même menace l'intégrité de ces élections.
Les républicains soutiennent le contraire. Pour eux, l'appel téléphonique du président le 25 juillet avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky était une tentative de lutter contre la corruption en Ukraine et pas pour obtenir une contrepartie politique. Selon eux, il n'y a rien de nouveau car les démocrates ont toujours cherché à destituer Trump. La représentante républicaine Debbie Lesko.
Ils étaient
déjà décidés à le faire et ils l'ont fait. Ils n'ont aucune preuve, aucune évidence, aucun crime, mais ils ont continué et ils déchirent le pays.
Historiquement, les mises en accusation des présidents ont toujours divisé le pays. Même si la moitié des Américains n'est pas pour la destitution de Trump, les démocrates affirment que l'opinion est de leur côté. Nancy Pelosi est présidente de la Chambre des représentants.
Le public pense qu'il doit déterminer qui est le président des États-Unis et pas une puissance étrangère. Le public pense que personne n'est au-dessus de la loi. Nous pensons de même, le président doit être tenu responsable des abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès.
Le procès au Sénat dominé par les Républicains va certainement exonérer le président et le garder au pouvoir, Kevin McCarthy, leader de la majorité républicaine à la Chambre des représentants.
Le président a dû publier les transcriptions de cet appel téléphonique au monde entier. Cela a affaibli le bureau du président et c'est lui qui occupera ce poste à l'avenir, que le rappel téléphonique ne soit livré au reste du monde.
Tout ira très vite, quelles que soient les retombées, car 2020, c'est aussi une année électorale aux États-Unis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Burkina Faso, de nombreux bars de la capitale réservent des groupes de style cubain pour jouer les tubes du légendaire Buena Vista Social Club. Le public cible est souvent âgé de 60 à 70 ans, mais c'est encore taillé des formes sur la piste de danse. La popularité de la musique cubaine dans ce pays remonte à l'époque de l'ancien président Thomas Sankara, inspiré non seulement par la révolution cubaine, mais aussi par sa musique. Lionel Gaïma.
Chanter, danser comme si on était à Cuba. Dans les bars du Burkina Faso, la musique du légendaire Buena Vista Social Club de Cuba est vivante et florissante. Bob Seydou et son groupe, les élites du Faso, jouent tous les week-ends dans de nombreux bars et clubs de Ouagadougou.
Le Burkinabé, c'est la musique cubaine. Ça les fait rappeler les anciens temps, les temps de nos papas et de nos vieux, et de nos anciens présidents, paix à son nom, Thomas Sankara. Parce qu'il aimait trop les morceaux cubains. Franchement, il aimait ça.
Thomas Sankara était une figure de proue des mouvements panafricanistes et anti-impérialistes. Il a dirigé le Burkina Faso à partir de 1983 avant d'être assassiné en 1987. À cette époque où de nombreuses nations africaines s'éloignaient de décennies de domination coloniale, la musique cubaine, liée à la politique révolutionnaire de Fidel Castro, avait de nombreux adeptes. Le président Sankara a même reçu à l'époque le célèbre orchestre cubain Aragon.
Donc le Cuba était un pays révolutionnaire. Il y avait même une collaboration entre lui, entre le Burkina à l'époque et le Cuba. En son temps, il y a eu des Cubains qui sont venus, qui l'ont appris, les orchestres cubains qui sont venus ici. Peut-être que l'orchestre Aragon est venu ici.
Thomas Sankara était lui-même musicien, jouant dans l'ancien groupe Le Missile Orchestra du guitariste Roger Bioun avant son ascension à la présidence. Ensemble, ils ont produit des musicals et des tubes au rythme afro-cubain.
Le morceau qu'on a joué avec lui, tel que le morceau de Jonas Pedro et Autorola. Voilà, bon, il y a des trucs cubains qu'on a créés ici, on mélangeait ça dedans. Et puis bon, on jouait, mais on avait notre fort, c'était dans la musique congolaise, la musique cubaine et la musique mandingue, c'est le guinéen.
32 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, au-delà du révolutionnaire qu'il fut, des Burkinabés se souviennent encore du leader mélomane et continuent de chanter et de danser au rythme de la musique qu'il aimait.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Joselle Morissin et à Keith pour la mise en onde, la présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayigouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.